On leur remercie d'être avec nous ce matin. Martin Biron, en direct de Buffalo. Salut Martin. Ben regarde, je voulais pas te lancer là-dessus, mais encore de la neige pour vous autres. Ça touchera pas le Québec, ça va toucher les Maritimes pour la suite des choses. Mais regarde, si tu veux parler de neige, qu'est-ce que t'as à dire? T'es-tu écœuré?
Non, c'est parce que ma pelle sur mon truck, elle a brisé la semaine passée. Fait que là, je la fais à la main. Fait que c'est un peu plus difficile.
Puis au plan technique, ce qui est particulier, c'est que moi, je l'entendais, mais les auditeurs ne l'entendaient pas. C'est un peu spécial. Mais c'est la magie de la technologie, ça a l'air. Martin, est-ce que c'est les Américains qui ont gagné? Est-ce que c'est Hellebuck qui a gagné? Est-ce que c'est le Canada qui a perdu? On se comprend, là. Est-ce que c'est davantage le Canada qui a perdu? Vas-y.
C'est les Américains qui ont gagné. Écoute, tu regardes le match, là, puis tu dis, OK, le Canada a eu deux fois plus de chances de marquer. Le Canada a manqué de grosses opportunités, mais les Américains en ont manqué aussi. Écoute, ça aurait pu finir en première minute et en prolongation. Bennington a fait un gros arrêt de la mitaine sur un lancer sur réception. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis, tu sais, ceux qui disent que, ben oui, mais le Canada s'est fait voler une game par Connor Hellebuck. Ben, Connor Hellebuck, il fait partie de l'équipe USA. Que les Américains, tu sais, en 93, quand le Canadien a gagné, le meilleur joueur cette année-là dans les séries, c'était Patrick Roy. Carey Price, quand le Canadien, il n'y avait pas une grosse équipe, mais il y avait Carey Price. Mais ça fait partie de ton équipe. Dominique Hašek avec la République tchèque en 98, ouais, avec les Sabres de Buffalo, ça fait partie de ton équipe. Alors, les Américains ont gagné. Puis oui, est-ce que le meilleur joueur sur la glace, c'est Connor Hellebuck? Mais il fait partie de l'équipe.
Raconte-moi ton match. Comment tu l'as vu, ce match-là?
Encore une fois, un problème d'équipe Canada dans les 4-5 derniers matchs. Ils donnaient toujours le premier but. Tu regardes contre la Tchéquie, contre la Finlande, contre les Américains. Tu donnes le premier but, tu te mets dans une situation différente où tu dois, là, John Cooper se doit de changer les trios, de trouver quelque chose qui va peut-être donner une étincelle. C'est comme ça que j'ai vu le match. Où le Canada essayait de trouver une recette qui allait marcher. Si tu marques le premier but, si tu es en avant 1-0, là, tu peux aller avec le plan de match. T'sais? Fait que je pense que c'est comme ça que j'ai vu le match équipe Canada, où de l'arrière, ils ont essayé de trouver une recette qui allait marcher. Écoute, ils ont eu des chances de marquer, ils auraient pu...
McKinnon, le but vide. Oui. Qui revient pas chez le Canada? Est-ce que tu fais un peu table rase dans le management, les coachs? Quel est le post-mortem que le Canada doit faire?
On parle dans 4 ans ou on parle dans 2 ans à la Coupe du monde?
Dans 2 ans. Parce que 2 ans, ça va être un préliminaire des Olympiques après. Là.
Oh boy, dans 2 ans, je pense pas que Drew Doughty est là. Je pense pas que Bennington est là non plus.
Ni Marchand.
Je pense que dans le filet, on va peut-être essayer de trouver... Tu sais, Bennington, il était très bon. Mais c'est pas ça. Mais je pense que si tu te battes par Hellebuck, puis t'as quasiment perdu contre des gardiens de but qui peuvent voler des matchs. Alors... Je me dis,
Saros, entre autres.
Peut-être Bennington, peut-être Doughty, peut-être Sidney Crosby. J'ai bien hâte de voir d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, où va être Crosby. S'il joue dans le national, il est là. Mais s'il a pris sa retraite, c'est évidemment, il ne sera pas là.
Ben c'est ça. Crosby n'est pas là. Le 3 contre 3, je vais t'entendre là-dessus. Le 3 contre 3, ça n'a pas de sincère de bon sens dans un match de médaille d'or.
Oui, mais John Cooper a très, très bien répondu à la question après le match hier. Il a dit, tout le monde sait les règlements lorsqu'on s'en va aux Jeux Olympiques. Tu sais, tu joues le dimanche à 2h15, heure d'Italie, puis à 19h, heure d'Italie, tu as les cérémonies de fermeture des Olympiques. Tu peux pas avoir un match de 3, 4, 5 en prolongation. Ils savent c'est quoi les règlements. Quand ils vont au tournoi, c'est tout comme ça. Ils ont gagné en prolongation, en quart de finale. C'est ça qui arrive. Alors, je pense que le monde n'aime pas le 3 contre 3. Ça a donné un gros spectacle, mais ça a fini 3 contre 3 pour les femmes.
Oui, si on avait gagné, on ne parlerait pas de ça.
Pour les hommes aussi.
C'est ça, c'est exact, ça. Je comprends. Qui t'a impressionné le plus chez les États-Unis, un joueur, là, nomme pas Hellebuck parce qu'on le sait que ça a été le pan de mur, puis ça a été la star. Jack Hughes, moi Jack aussi. Hughes, pourquoi?
Le premier match du tournoi, là, tu sais, les Américains contre la Lettonie, premier match, ils glissaient sur la patinoire, ils volaient sur la patinoire. Puis tu sais, c'était deux années difficiles pour Jack Hughes. Son frère Quinn en a parlé aussi après le match. C'est pas facile. Opération, rehab, essayer de revenir, opération, rehab, essayer de revenir. Cette année, avec l'accident au restaurant puis tout, mais il était un des meilleurs, sinon le meilleur joueur du côté des États-Unis.
Du côté du Canada.
Ben, c'est sûr que McDavid était très bon, mais moi, j'ai trouvé que le joueur le plus excitant puis le plus dangereux, c'était Macklin Celebrini.
Merci.
Puis le kid, il a 19 ans, il aurait pu jouer au équipe Canada Junior cette année. Oui. Alors, c'est bon pour le futur de l'équipe, c'est bon pour le futur du hockey.
Qui sera, comment je pourrais dire ça, donc, plus renforcé dans 4 ans? Évidemment, tu as Lane Hudson-Caulfield qui pourrait se joindre aux Américains. On verra. On parle pour parler, là. De toute façon, c'est de la radio de sport. C'est pas mal ça d'un pas sportif là, à longueur de journée. Là. Fait qu'on le fait. Du côté du Canada, tu vas avoir Schaefer qui s'en vient. Connor Bedard, s'il n'avait pas été blessé, il aurait été sélectionné. Fantilli. Qui d'autre du côté du Canada? Il y a une nouvelle garde qui monte, là.
Oui, Gavin McKenna, qui présentement joue à Penn State dans 4 ans. Il peut peut-être aussi faire partie de ça. Écoute, le Canada a une filière de joueurs. Je pense que les Américains se retrouvent présentement avec une filière de joueurs. C'est très bon. La Suède avait des blessés. La Finlande, le banquet Barkov. Mais il ne faut pas oublier que la Russie va aussi faire probablement... J'espère que tout ce qui arrive en Europe...
Let's go, Martin, plonge là-dedans. C'était ma prochaine question. Plonge. Russie, oui ou non?
La Russie n'est pas là. C'est difficile. Tu sais, les meilleurs gardiens de but au monde, c'est Vasilevski, Shesterkin puis Sorokin. Les trois meilleurs, ils n'étaient pas là partout. Kucherov, Kaprizov. T'en as là, des joueurs importants. Alors, c'est peut-être... qui va être excitant lors de la prochaine Coupe du Monde ou les prochaines Olympiques, c'est de savoir que ça se peut que ça soit vrai. Alors, Vladikin, il a répondu à une question des... Tu sais, les Russes sont pas contents de pas être là. C'est de leur faute, tu comprends. C'est pas de la faute des joueurs, mais ce qui se passe. Mais Vladikin, ils ont posé la question, est-ce que tu regardes les Olympiques? Il dit non. Tu sais, je pense que quand les Russes vont venir, là, ils vont venir avec un... avec un gros marteau pour vouloir surprendre le monde.
Est-ce que les Russes ont les meilleurs goalers?
Oui. C'est, on va dire, là, les Américains sont très proches. Pis je pense que c'est à cause du modèle de développement aux États-Unis, modèle collège américain. T'sais, les gardiens de but, ils ont 21, 22, 23... Ils se développent en côté collégial. En Russie, c'est la même affaire. Ils ont 21, 22, 23. Ça se développe dans la KHL, qui n'est pas la Ligue américaine, la Ligue nationale. Là. Alors, je pense que à cause que tu leur donnes le temps de se développer, ça l'aide beaucoup plus les Américains et les Russes et les Suédois, les Finlandais. Mais la Suède, la Finlande, c'est y a moins de monde. Qui participent au hockey que la Russie et les Américains.
Oublions le Canada, oublions les États-Unis. Quel est l'autre club qui t'a impressionné le plus et pourquoi?
Oh boy, je vais te dire la Slovaquie. Ils m'ont impressionné. Pourquoi? Parce que quand le tournoi a commencé, je m'étais dit, OK, la Slovaquie, ça va, c'est peut-être 6e, 7e, 8e, peu importe. Ils finissent 4e. C'est sûr que ça a moins bien fini de perdre 6-1 contre la Finlande. Mais Slavkovski m'a impressionné. Leur gardien de but, Slovaque, m'a impressionné. C'est un gardien de but, évidemment, que on connaît pas beaucoup dans la Ligue nationale, mais tu sais, il est dans les mineurs, dans la Ligue East Coast, peu importe. Je pense que la Slovaquie, après ce qu'ils ont fait il y a 4 ans, c'était un bon tournoi pour un petit pays comme ça.
Est-ce qu'on a besoin d'un coach plus émotif pour la suite des choses? John Cooper, c'est John Cooper avec ses coupes, avec le Lightning qui était sur une lancée extraordinaire et qui pourrait continuer puis nous impressionner même en série. Mais un coach plus émotif, un Patrick Roy, doit-il être considéré?
Je sais pas si un tournoi qui est tellement court, tu sais, tu joues 6 matchs, là, je pense que tu dois être vraiment en contrôle. Les émotions, c'est le fun. Puis écoute, 1980, les Américains, Herb Brooks, le film Miracle, puis ah, oui. Tout, on sait bien que Herb Brooks, il jouait avec les émotions, mais c'est pas pareil qu'en 6 ans plus tard. Moi, on parle d'entraîneur, là. Je pense que la Suède va probablement regarder autre option lorsqu'on parle de coach. C'est Craig Button à TSN qui a dit que les Suédois se font manger côté coaching. Tu sais, un Paul Maurice, il y a beaucoup d'autres coachs qui peuvent être aussi parmi ceux qui peuvent aider d'autres équipes peut-être.
On parle jamais de Saint-Louis aussi. À un moment donné, il faudrait le considérer dans une discussion là, pour oui, Team Canada, à un moment donné, Saint-Louis. Si je trouve qu'on manque de respect envers Saint-Louis.
Tu regardes là, Bruce Cassidy, t'es assistant. Peut-être que tu amènes d'autres assistants d'ici 4 ans.
OK, pour la suite des choses, tu veux-tu parler des filles un peu? T'as-tu regardé ça? Quand même, le tournoi des filles, c'est quand même pas banal.
Je veux dire, ils se sont battus en tabarouette. Là. Les Américaines étaient tellement plus fortes que les Canadiennes. Puis tu regardes, là, Anne-Renée Desbiens, elle a fait un travail exceptionnel. Marie-Philippe Poulin était exceptionnelle. Puis de dire que jusqu'à 1 minute et demie, là, le Canada jouait le système qu'il avait besoin de jouer. Ça fermait le milieu de la glace. C'était défensif. Ils savaient bien que la seule manière d'essayer de remporter ça, ça allait être gagner peut-être 1-0, 2-1. Malheureusement, c'est allé de l'autre côté. Mais chapeau aux Canadiennes, là, le travail qu'ils ont fait, surtout lors du match de la médaille d'or.
Puis je finis avec... Je reviens avec le hockey masculin. C'est parce qu'on se projette, puis là, on vient de le dire. Bon, Fantilli, peut-être McKenna, assurément Bédard. Mais dans 4 ans, si tout se déroule comme prévu, il n'y aura pas plus de Québécois là, dans non, Team Canada. Mais... La question étant, est-ce que ça doit nous amener à réfléchir? Le pipeline de talents canadiens-anglais, moi, je vois pas de problème. Je veux dire, Schaefer, regardez-le jouer. Le gars, c'est un freak. Il a 18 ans. Le gars joue comme Cale Makar. Non, je vois pas beaucoup de problèmes, honnêtement, au Canada anglais. Mais c'est le Québec qui m'interpelle. Est-ce que toi, ça t'interpelle? Oui, non, et pourquoi?
Ben, c'est certain que oui, parce que je me souviens d'avoir grandi dans le junior, même dans la Ligue américaine, avec d'autres Québécois, faire notre place dans la Ligue nationale, c'est quelque chose qui a une fierté, tu sais.
Mais il y a la fierté. Il n'a plus, là! Dans 4 ans, Martin, il n'aura pas. Partout, hein? Dans 4 ans, il n'y en aura pas.
Oui, mais c'est pas... Tu sais, le monde au Québec, des fois, ils disent « Ah, on devrait avoir plus de Québécois, équipe Canada Junior, tout ça. » C'est le plan de sélection, la manière de... Alexis Lafrenière, il a été repêché premier au total. Tu sais, ben, OK, ben ouais. Là, c'est quoi qui s'est passé? Celebrini était là, il était premier au total. Connor Bedard va être là, il était premier au total. C'est pas que... Il n'y a pas de gros noms qui pourraient être là. C'est parce que on a un peu plus de misère à développer nos joueurs et leur donner ces opportunités-là. Alors, je comprends, mais il y a beaucoup d'autres. Moi, je te le dis, là, c'est à cause d'avoir grandi à Québec. Je pense que la perte des Nordiques en 95-96, ça l'a coûté beaucoup au hockey québécois parce qu'on se ramasse 30 ans plus tard. Tu sais, est-ce que il y a du monde qui aimait le hockey dans les années 80-90, puis que là, dans la fin des années 90, début des années 2000, sont allés faire d'autres choses. Puis là, ben 20 ans, 30 ans plus tard, on a moins de Québécois. Je pense que ça a beaucoup changé la direction du hockey au Québec lorsque les Nordiques sont partis. C'est une opinion personnelle, mais je pense que ça a affecté le nombre de joueurs d'impact dans la Ligue nationale.
Merci beaucoup, Martin. Merci. Alors, ça recommence quand, les Sabres? Dans deux jours?
Mercredi soir. Puis là, c'est 25 matchs en 50 jours pour les Sabres. La même chose pour le Canadien. C'est à toutes les
un match aux deux jours. Très exigeant pour le body, là.
Absolument, mais c'est pour ça qu'ils font les gros salaires.
C'est ça. Exactement. Merci infiniment, Martin Biron.
OK, merci. Bye.
Ah, il va pelleter. Salut, bye.
Salut, merci.
Salut, 8h28. Dan, t'en dis quoi sur l'aspect des Nordiques, l'analyse?
Ben, tu sais quoi, ça se pourrait, parce que, clairement, tu sais, on va regarder dans les autres sports, le Québec a totalement dominé les autres provinces, dans tous les autres sports aux Olympiques. Moi, c'est un enjeu que je dis depuis souvent, je pense que depuis un certain temps, nos meilleurs athlètes au Québec ne choisissent plus le hockey. Les meilleurs athlètes vont choisir. T'sais, regarde le football. La meilleure province au football au Québec, au Canada, c'est le Québec.
C'est ici, oui.
Donc, il y a plusieurs personnes qui choisissent d'autres sports que le hockey. Puis je peux le comprendre. T'sais, je regarde dans mon entourage, j'ai quand même plusieurs personnes qui ont des enfants en bas âge. Puis tu sais, Doom, le sacrifice que nos parents ont fait quand nous autres, on était jeunes...
L'argent, ça coûte cher.
Il y a l'argent en plus. Puis il y a plusieurs parents que ça leur tente plus, là. Tu sais, les gens vivent. Il y a plusieurs personnes que ça leur tente pas de passer les fins de semaine d'hiver dans les arénas à cause des tournois.
D'où la montée du deck.
Voilà.
Moi, je l'ai vécu, le deck, pour mes deux kids. 7h30 le matin, c'est dépendant du niveau, là, mais 7h30 le matin au deck Lormière, dans ce coin-là, le Chauveau.
Moi, quand j'étais jeune...
C'est régularité, ça coûte pas cher, ça coûte 300 cucs pour la saison. C'est régulier. Le kid se défoule. Il y a des kids là-dedans qui n'auraient jamais joué au hockey sur patin parce qu'ils ont moins de skills, etc. Donc, tu as ces options-là, Dan, qui n'existaient pas à l'époque.
Oui, c'est ça. Puis quand j'étais jeune aussi, ben nos parents venaient moins pour vrai. Là. Nos parents venaient moins au tournoi de hockey. T'sais, c'était comme on était ben, au tournoi de quoi que ce soit. On partait trois caravanes avec 5-6 joueurs dedans pour aller à notre tournoi, à nos patentes. Aujourd'hui, c'est plus nécessairement de même. Les gens vivent. Donc, c'est comme un mode de vie, le hockey mineur maintenant. C'est un mode de vie. J'étais avec la gang, avec les autres mères. Je fais des vidéos sur TikTok. Puis, je prends un coup à l'hôtel la fin de semaine. On est beaucoup là-dedans, là. Alors qu'il y a beaucoup de parents qui disent non, moi, ça me tente pas. Puis, tu sais, la montée du hockey scolaire, il y a un gars qui m'a parlé cette semaine. Je veux pas le. Parce qu'il aime pas ça quand je parle de lui en ongles. Puis, je l'ai fait souvent. Mais il me dit, moi, j'ai tellement hâte que le primaire soit fini. Pour pouvoir inscrire mon jeune au hockey scolaire, pour ne plus avoir à me lever le samedi puis le dimanche matin. Puis s'il n'est pas inscrit au hockey scolaire, le hockey finit là.
Lorsque le hockey scolaire étant du hockey qui se joue durant l'école?
Durant l'école.
Durant les périodes scolaires, un c'est peu comme sport-études.
Les écoles ont les meilleures heures de glace.
Exact. Mais regarde les textos, c'est l'argent. Là. Le hockey coûte cher, c'est beaucoup cher, c'est le prix, c'est l'argent, c'est le nerf...
C'est énorme comme différence. Mais le point que Dan disait, puis ça, c'est vrai peut-être pour dépasser le hockey, là, on a besoin, nos enfants, on dirait qu'on a besoin toujours d'être avec eux autres. On les trosse pas, on les trouve pas en sécurité. En fin de semaine, je suis allé au Pee-Wee avec ma fille, de ses amis, puis avec mon neveu. Puis à un moment donné, mon neveu était tanné, puis il habite pas loin du centre Vidéotron, fait que je t'allais porter mon neveu. Puis là, je disais ça à ma plante. Ouais, je laisse les filles là au centre Vidéotron. Hein? Hey, ils sont rendus en 6e année, ils s'en vont au secondaire l'an prochain. Là. Moi, à cet âge-là, là, j'allais au Pee-Wee tout seul.
Tout seul.
Ben oui.
Tu sais, on allait au cinéma tout seul. On prenait l'autobus, ben,
rien. Oui. Je faisais tout ça tout seul, au en primaire. Effet. Là, aujourd'hui, ça prend un accompagnateur. Puis ça me dérangeait pas, j'aime ça aller au Pee-Wee. Mais.
On faisait ce qu'on voulait.
À un moment donné, on va se calmer. Là. Ils rentrent au secondaire. Là. Ils vont aller magasiner tout seul dans pas long. Là.
Ah, puis il y a du jugement. Moi, j'entends du jugement. J'essaie de faire attention parce que. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde que j'aime dans mon entourage. Hein. Ouais, mais il y a beaucoup de jugements, là. Ben, par rapport à... Ben oui, je sais, un tel, il est tout le temps tout seul. Moi, je suis là à toutes les games de mon gars, j'ai jamais vu les parents de l'autre.
Ah ouais, mais ça se peut que les beaucoup parents travaillent la fin de semaine.
Parents
ça
séparés aussi.
Ben
ça,
oui,
c'est une autre
réalité, ça, la réalité, c'est ça.
Parents séparés égale pauvreté, là. Oui. Ça, c'est la vérité, ça aussi. Oui.
Un divorce,
à tort ou à raison.
Deux personnes de classe moyenne qui se divorcent, ça fait deux pauvres.
Deux pauvres. Mais il y a ça aussi. Le Québec d'aujourd'hui est plus pauvre qu'il y a 25 ans.
Oui.
Et regardez la facture. Allez vous monter un kit de hockey à l'entrepôt du hockey un matin, là. Puis achetez pas le top élite stock, là. Stock de base, neuf. Mais neuf, c'est le fun aussi, là, d'acheter du neuf, mais de base, là. La facture est là, là. Le gars, il y a une pension alimentaire à payer. il y a ci, il y a ça. C'est une réalité qui est différente aujourd'hui. Puis oui, t'as là-dedans, tu l'as dit, Dan, le sport, tant qu'à bouger, le deck, ça, je vous dis, le deck, ça déborde, le deck. Il n'y a plus de parking le samedi matin au deck à Chauveau.
Oui.
Et t'as les autres sports également que t'as nommés, dont le football.
Moi, tu vois, il y a un gars qui vient de m'écrire qui dit, c'est ça, la séparation fait que la semaine sur deux que c'est la mère qui avait mon gars, elle voulait pas s'impliquer dans le hockey, puis... Ah. T'sais, la distance fait que je ne fais pas moi non plus, fait qu'il a arrêté de jouer au hockey.
Faut que tu harmonises les flûtes, là.
Oui, ouais. C'est vrai, t'as raison.
Puis il y en a beaucoup de séparations qui sont pas des belles séparations. Réussir son mariage, c'est une chose, mais réussir sa séparation, c'est un autre paire de manches.
Ouais, ça prend de maturité.
Il y en a qui réussissent la séparation. Il y en a que j'ai vu des parents se séparer ensemble. Puis ils jasent, puis ils sont restés amis. Mais ça, c'est rare, je pense. Il y en a beaucoup. Et la résultante, oui, c'est, malheureusement, c'est ça, c'est deux pauvres. Malheureusement. Il est 8h33, 34.
Hey,
on va à la pause là?
Ouais, on va y aller à la pause.
Je sais que JBG s'en vient tranquillement.
Mais le cash, c'est l'enfer.
Beaucoup de textos, hein? Beaucoup de textos.
Le cash, c'est l'enfer. Les gens parlent des chambres d'hôtel. Ben oui, en plus, il faut que tu couches à l'hôtel.
Il y a des gens qui ne prennent pas de vacances. Moi, j'en ai connu. Oui, tu prends tes vacances où? Non, moi, les vacances, le budget vacances, c'est des tournois. On va à Saint-Hyacinthe, l'autre tournoi, à Terrebonne, l'autre tournoi, c'est à Alma. C'est ça, les vacances. Puis l'été, ben ils mangent le main, puis ils regardent l'autre.
Donc.
Tu sais, ce qu'ils mangent, ils gardent l'autre demain, Puerto Patio, à la maison.
Donc, est-ce qu'on fait ce qu'on dit depuis toujours, depuis à peu près 3-4 ans, c'est-à-dire on met le feu dans Hockey Québec, le hockey récréatif, pas compétitif, puis on embarque tout le sport de compétition dans les écoles?
Je sais pas quoi faire. Humblement, j'ai pas d'idée. J'ai aucune idée.
Ça marche bien, en Europe. Mais de mettre tout le sport dans les écoles, ça marche bien aux États-Unis pas en Europe. Là. Ça, c'est certain.
On est pauvre, Dan, à la base. Je sais pas. À partir du moment où tu n'as pas beaucoup d'argent de disponible et le décoquer, c'est 300$ pour l'année. C'est ça, là. C'est économique à la base. J'en ai pas d'idée. Je le sais pas. Avant, je tapais sur Hockey Québec comme ça l'est. C'est devenu quasiment un sport national, là. Mais j'ai pas d'idée. Moi, je pense que les gens font ce qu'ils peuvent beaucoup. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Avec les séparations, beaucoup. C'est la province où on se sépare le plus. Et c'est la province où on est imposé le plus. 1+1 égale. Ça sent pas le succès, là.
Non, effectivement, t'as raison. Sauf que ça marche bien dans les autres sports. C'est les sports
les
scolaires...
Les autres sports, ça coûte beaucoup moins cher. Là. Les autres sports, Dan, ça coûte énormément moins cher. Le soccer, ça coûte pas cher.
Ouais, mais
l'équipement, c'est banal. Le foot aussi.
Je sais, ça coûte pas cher, mais c'est beaucoup aussi parce que les équipements sont fournis par les écoles. Là.
Je sais pas pour le soccer. Là. Je sais que le foot, évidemment, t'achètes tes culottes, j'imagine.
Tu sais, tu vois, quelqu'un dit ça coûte 1000$ une saison de football par enfant. 1000$ une saison de football. Faudrait que ça coûte ça une saison de hockey aussi. Faudrait que ça coûte 1000$.
Sinon, on subventionne?
Ben, pas on subventionne. On va subventionner. De toute façon, ça va être à l'école. La façon de faire, ça se peut pas. Tu sais, quand on regarde les résultats, c'est les résultats, là. On est unique dans le monde. On est unique à sortir, à mettre le sport mineur très, très civil et non pas dans les écoles. T'sais, on parle de la Norvège, le skieur de fond qui a ses 6 médailles d'or. Lui, là, il skiait de fond à l'école. Là. Quand il avait 6 ans...
Il est venu au monde, il avait des skis des pieds.
Mais c'est pas ça. Mais quand il avait 6 ans, il y avait un cours à l'école qui s'appelait ski de fond. Là. C'est le même partout. On parle de Tadej Pogačar à vélo. Tadej Pogačar, là, quand il avait 4 ans, il y avait un cours de vélo à l'école parce qu'il était bon à vélo. Tout le monde font partie, sont dans un programme sport-études. Dans quel sport t'es bon? Ben, tu vas être en sport-études là-dedans. Ouais, mais moi, j'aime pas ça, le sport. Ben, on va en trouver un dans lequel tu vas aimer, le golf, le ci, le ça. On n'a pas cette
sport-études
culture.
Fonctionne bien, je pense, au Québec.
Mais
je peux pas m'aventurer là-dessus.
Elle fonctionne très, très bien.
Ça va bien. Mais le baseball, entre autres, on s'est beaucoup amélioré, le Québec.
Ben, justement. Donc, passons plus par là. On devrait uniquement passer par là. Les sports-études, là, ça devrait être notre priorité. Toutes les écoles secondaires devraient avoir du sport-études. En fait, on devrait même pas avoir d'exception à ce niveau-là. Si on veut s'occuper vraiment de nos jeunes, puis si on veut que nos jeunes évoluent de la bonne façon, là, toutes les écoles primaires et secondaires devraient avoir un sport-études. Sans aucune exception. Aucune. On les aime, nos jeunes. Ben, mettons la priorité là-dessus. Puis si les jeunes faisaient plus de sport-études, là, ben possiblement que ça nous coûterait moins cher 70 ans plus tard pour les vieux.
Et ça coûterait moins cher de pilules.
Et ça coûterait moins cher de pilules. Puis on enlèverait la pression sur les parents.
Sport-études, ça coûte combien? Tu sais, je pose la question, puis je sais qu'il faut aller à la pause, là. Mais je sais qu'il y a un prix rattaché à tout ça. Là. Je sais pas. Je sais que Cardinal Roy sont très, très forts là-dedans. Il y a d'excellents programmes de sport-études, là. Mais je connais pas assez cette filière-là. Là. Malheureusement, je peux pas beaucoup en parler. Mais les auditeurs écrivent dans 15 000 par année.
Il y a beaucoup de monde qui nous écrivent, qui dit « Quand on change pour le hockey, on n'économise pas. Quand on change de sport, on n'économise pas. Tous les sports coûtent cher. » Mais le hockey, c'est l'équipement. Les patins puis le bâton, ça, juste ça, tu pars à 500. Là. C'est deux patins, un bâton, t'es 500 piastres, voyons. Des jeunes qui, en plus, les pieds leur grandissent à chaque année.
Le hockey mineur, ça nous coûte 550 par saison pour Duatome. Ça comprend pas les tournois, hôtels, etc. Le hockey scolaire, c'est autour de 5000 par saison plus les tournois. C'est cher pour les gens qui sont séparés comme moi. Voilà.
1600 piastres une saison de basket. 1600 piastres une saison de basket.
C'est entre 5 et 10 000 le sport-études, Dan. C'est pas pour tout le monde. Non. C'est vraiment pas pour tout le monde. Non.